Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1959-1960. L'immédiat. Aujourd'hui, la condition intermédiaire, cours numéro 5, enregistré le 11 janvier 1960.
Après avoir distingué le temps et l'espace dans la précédente séance, nous avions ajouté que finalement tout se ramenait à une question de temps et qu'il n'y avait de véritable médiation que la médiation par le temps, celle de l'espace elle-même se ramenant à une médiation temporelle. C'est le temps seul qui, en nous obligeant à vivre les moments d'une succession réelle et à les vivre l'un après l'autre dans une succession irréductible, c'est-à-dire sans pouvoir les cumuler, sans pouvoir à la fois être et avoir été, retenir le moment passé dans le présent, anticiper le futur dans ce même présent, c'est ce temps seul qui donne un sens vécu, un sens dramatique à la médiation, c'est-à-dire qui fait du pas encore, ou du devant-être, du déjà plus, quelque chose qui est relatif à mon effort, à ma fatigue, à ma douleur, et qui est par conséquent coûteux. Et qui a donc véritablement le sens d'une médiation, dans l'espace comme dans le temps. Que ce soit un effort pour rejoindre le lointain dans l'espace, ou que ce soit un effort pour anticiper l'avenir, pour présentifier, rendre présent le futur dans le temps. Ce que prouve déjà l'idée même que, en somme, un moyen n'est qu'un moment. Le moyen n'est véritablement un moyen que s'il est lui-même un moment, c'est-à-dire une étape dans la série de mes épreuves. De telle manière que le moyen, à son tour, n'est qu'une péripétie, et comme le moment d'une dialectique, et le degré dans l'initiation à une vérité qui se révèle morceau par morceau, qui se découvre à l'homme d'une manière graduelle. Ce temps que nous passons dans la médiation, et pour le quitter, avant de le quitter aujourd'hui, dirons-nous une dernière fois qu'il est perdu ou qu'il est gagné? Les deux peuvent se dire, puisque j'ai montré qu'ils relationnaient autant qu'ils séparaient, rapprochaient autant que possible ce que éloignait l'extériorité des existences, l'extériorité réciproque des existences finies. Donc, à la question de savoir si ce temps est perdu ou gagné, ce temps de la médiation, on ne peut pas répondre d'une manière inambiguë. On ne peut répondre qu'en normand, c'est-à-dire à la fois oui et non, selon le point de vue. Donc, d'une certaine manière, l'immédiat est un média accéléré à l'infini, et comme la limite de la médiation. La limite extrême de la médiation, ou réciproquement, la médiation est une immédiateté différée. Si la médiation est donc une approche dont la limite est la proximité, l'objet le plus proche possible, et vous verrez quel sens nous donnons aux expressions le plus possible. S'approcher le plus possible sans coïncider, mais j'en ai déjà donné une idée précédemment. Donc, puisque ce temps qui est à la fois, qui à la fois relationne et sépare, est quand même l'essentiel de la médiation, ce qui seul est vécu en elle, il s'ensuit que la recherche de l'immédiat sera avant tout à rechercher dans la compression maxima de la temporalité, dans une compression à laminage, si on peut dire, de ce temps. Et c'est cela dans où il nous faudra reconnaître la recherche même de l'immédiat. Les stations intermédiaires sur lesquelles on reprend appui pour aller plus loin dans la médiation ne sont pas toujours actualisées, pas plus selon Bergson que les stations dans un mouvement ne sont toujours actualisées. Et pourtant, le mouvement est une série de stations à l'infini, mais qui ne sont pas toujours, qui n'existent pas toujours en acte, mais qui existent virtuellement. Tout de même, dans l'effort de la médiation qui me sépare de la donnée, il y a une infinité de stations virtuelles, mais ces stations, je ne les actualise pas toujours. Et elles représentent, en somme, la série infinie des moyens termes qui me sont nécessaires pour comprendre, ou pour pénétrer, ou pour analyser, pour voir, étant donné la capacité finie de mon entendement. C'est donc par métaphore, que, un peu par métaphore, que, et pour être plus clair, qu'à la fin de la dernière séance, nous avions distingué un immédiat spatial, par exemple de la vision ou de la connaissance, et un immédiat temporel du courage, qui était de se rapprocher au plus près d'un donné qui cette fois était un péril pour ma vie, un danger pour mon existence, mais qui est la façon qu'a l'objet d'être donné pour l'action lorsqu'il est un obstacle, et enfin d'un immédiat à la fois spatial et temporel qui aurait été celui de l'amour, de la deuxième personne. Mais j'avoue que cette distinction était plus apparente que réelle dans sa clarté, et que en vérité ce sont les trois immédiats qui sont également spatiaux et temporels, c'est-à-dire avant tout temporels, et pas seulement celui de l'amour. Donc après avoir distingué comme je l'ai fait l'immédiat de la connaissance, celui du courage ou de l'action dans le temps, enfin celui de l'espace, celui du temps et celui à la fois de l'espace et du temps, je défais tout ce que j'ai fait. Enfin après avoir été clair, je redeviens confus. C'est peut-être la meilleure façon d'être véridique que de n'être pas trop clair en ces matières. La proximité dans l'espace, la proximité du donné, l'imminence de ce donné dans le temps, sont deux formes de la présence présente en redonnant à ces deux mots, comme je l'avais fait, leur sens à la fois spatial de présence et temporel de présent. Et il reste que l'approche de l'objet lointain s'accomplit elle-même dans le temps, qui est donc la dimension de nos laborieuses expériences, et qui est un temps précieux, n'est-ce pas ? Est-il plutôt perdu que gagné ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ce temps de la médiation est un temps qui est prélevé sur le devenir privilégié, le temps par excellence, le temps de tous les temps, qui n'est pas seulement leur somme, mais qui est leur quintessence, et qui est le temps de ma vie, le temps de ma biographie, le temps qui m'est imparti pour vivre, et qui par conséquent est un temps infiniment précieux, d'abord parce qu'il est fini, et ensuite parce qu'il ne me sera pas renouvelé, ne me sera pas rendu. Si bien que tout stage en attendant, toute expectative, toute expectation, qui est le temps que j'attends avant de trouver l'immédiat, est donc un temps précieux, et même s'il est gagné, je ne puis pas ne pas le sentir comme du temps perdu en attendant. Un temps en attendant. Si bien que je n'ai pas tellement répondu en normand, puisque finalement, je trouve qu'il est plutôt perdu que gagné. Enfin, c'est ce qu'on peut faire de mieux, la vie étant ce qu'elle est. C'est-à-dire, dans l'attente, et nous passons maintenant au premier problème, dans l'attente de l'intuition limite, n'est-ce pas, qui sera la limite de l'approche, cette limite dont on s'approche indéfiniment. Et je ne dirais pas sans jamais la toucher, mais en la touchant par tangence instantanée, extrêmement légère, plus que ponctuelle, tangence impalpable et impondérable, en l'attente de cette limite qu'est l'intuition, quelque chose est possible en attendant, à tout moment de la médiation. Et pourquoi ne pas dire intellection, puisque nous avons le mot en français et que malgré tout, il y est un peu plus intellectuel que l'intuition. Je dirais volontiers que l'intellection est une intuition en attendant, une intuition en cours de médiation. Heureusement, nous ne sommes pas obligés d'attendre la fin, ce que Platon, avec les mystères, appelait télos, c'est-à-dire le terme de l'initiation, l'accomplissement, le rapt de l'esprit, le vol de l'esprit dans l'extase, au moment où il touche l'absolu. Fort heureusement, nous ne sommes pas obligés d'attendre ce moment, qui n'arrivera peut-être jamais, qui arrivera peut-être une fois dans notre vie, et vous savez que à Plotin lui-même, ça lui était, paraît-il, au témoignage de Porphyre, arrivé très peu de fois, un très petit nombre de fois, et peut-être qu'à Sainte Thérèse, dans ses rapports avec Dieu, aussi. Donc, s'il fallait attendre ce moment, nous serions bien mal départis. Heureusement, nous avons en cours d'intervalle, et sans attendre la tangence avec la limite, nous avons l'intellection, qui est la petite intuition de la vie quotidienne, l'intuition des longues après-midi, de l'intervalle où on résout laborieusement des problèmes, et dans lesquels nous comprenons à travers les moyens. Nous comprenons globalement à travers les moyens, comme le rayon lumineux, traverse un milieu déformant, par exemple un verre réfringent, et traversant ce verre réfringent, se brisant, parcourt quand même, tout au moins au dire de Leibniz, le chemin le plus court possible. Le rayon de lumière, il fait comme nous. Il fait ce qu'il peut faire de mieux dans une atmosphère où il y a des poussières qui chargent l'air, qui épaississent la transparence, qui la rendent plus ou moins opaque, où il y a des obstacles sur la route des rayons lumineux, des vitres plus ou moins embuées, des milieux et des lentilles réfringentes. De la même manière, l'homme fait ce qu'il peut faire de mieux dans une atmosphère un peu encrassée, qui est l'atmosphère de la finitude dans laquelle nous vivons, dans des relations troublées par les vapeurs du vin, par les rapports des hommes, par la passion, par la méchanceté, la colère, la hargne, le parti pris, le refus d'épouser le point de vue de l'autre, de comprendre le donné, et la préférence qu'ont les hommes en toutes circonstances pour leur ego, pour leur vérité, dont ils sont porteurs, dont ils se croient porteurs. Eh bien, malgré toutes ces causes de déformation, malgré toutes ces lentilles mentales interposées, ces vers réfringents, eh bien, l'intellection fait quand même ce qu'elle peut faire de mieux, c'est-à-dire suit relativement le chemin le plus court, dont on ne peut pas calculer la voie comme le fait l'optique dans les lois de la réfraction, mais qui est relativement le plus court, puisque décidément, ce rayon ne peut pas être instantané, même que les physiciens avaient inventé au XIXe siècle l'éther pour expliquer que la propagation de la lumière n'était pas instantanée, qu'elle ne pouvait pas dépasser un certain chiffre, une certaine vitesse. De la même manière, il y a quelque chose, tout se passe, comme s'il y avait, dans le milieu de finitude où nous sommes plongés, un a priori, c'est pas que, une espèce d'éther mental, un a priori qui fait que qui est la malédiction de la relativité, si vous voulez, un a priori qui est la maudite relativité et qui fait que le rayon de la connaissance ne peut pas passer d'une manière instantanée et qu'il est coupé de la chose en soi. Donc, l'intellection nous donne la vérité à travers. De même que la lumière du soleil que nous recevons est une lumière à travers l'atmosphère, à travers l'ionosphère, à travers des tas de couches successives superposées autour de la Terre, et en plus à travers les vitres de nos appartements et l'atmosphère de Paris. Eh bien, donc une couche très épaisse d'a priori déformant. Et donc, de la même manière, il y a une malédiction qui fait que, heureusement, nous y sommes adaptés par l'intellection, sinon par l'intuition, qui est l'intuition des pauvres, si on peut dire, n'est pas une intuition pour les pauvres, et qui nous donne la simplicité complexe. Ce que nous appelions, je crois, à moins que je ne l'ai pas appelé comme ça d'ailleurs, la dernière fois, non point la simplicité tout court, en mettant des tirets entre tous ces mots, la simplicité simple, la simplicité simplicissime, mais la simplicité complexe, qui est la vérité à travers, plus ou moins corrigée par le calcul de la déformation, de l'indice de réfraction, en vertu duquel, il parvient jusqu'à nous. En fait, l'immédiat que nous cherchons, celui de la limite alors, non point de l'intellection quotidienne, mais de l'intuition limite, qui est un accomplissement, résulte, comme nous allons le montrer aujourd'hui, d'un débat continuel, d'un débat jamais résolu, toujours reporté en avant, et d'un débat infini, parce qu'insoluble, et insoluble parce que lui-même résultant d'une alternative où en somme se résume toute notre condition de créature finie, où se résume le caractère intermédiaire de notre condition, notre intermédiarité qui est une autre façon d'exprimer notre finitude. C'est donc cette alternative qui est, d'un autre nom, le caractère intermédiaire de notre condition, de notre situation, qui explique ce débat. Et la nature même de ce débat, et qui tient à une disjonction insurmontable que l'intuition voudrait surmonter. Une disjonction insurmontable entre deux modes d'exister humain, entre deux attitudes, dirons-nous, plus large encore, et plus indéterminée, entre deux attitudes qui sont en raison inverse l'une de l'autre, qui sont incompatibles l'une avec l'autre, incompossibles, comme dirait Leibniz, l'une avec l'autre, et inversement proportionnelles l'une de l'autre. Ces deux attitudes qui sont inversement proportionnelles, c'est être et connaître, n'est-ce pas ? C'est être et connaître qui est une alternative, et une alternative qui, en fait, est un véritable dilemme, n'est-ce pas ? Une alternative qui est un dilemme. On appelle dilemme, comme vous le savez, en logique, une alternative dont les deux termes reviennent au même, n'est-ce pas ? Et en général, tournent tous les deux au pire, par exemple, à notre mort. Tous les deux, aucune des deux branches de l'alternative n'est une solution. Et en général, elles reviennent au même. On peut distinguer alternative et dilemme en l'espèce et dire que l'option entre être et connaître n'est pas tout à fait un dilemme et qu'elle est plutôt une alternative. Mais remarquez qu'en se plaçant au point de vue métaphysique de la finitude de l'homme, nous dirons que ça revient au même et que toute alternative est plus ou moins un dilemme en tant qu'elle est insoluble, c'est-à-dire, plus exactement, en tant que dans l'un et l'autre cas, nous n'avons droit qu'à une demi-vérité. Ce que nous voudrions, c'est la vérité totale, d'être ce que nous connaissons et de connaître ce que nous sommes, de cumuler l'un avec l'autre. Or, comme de toute façon, il faudra se décharger de l'un, que nous n'aurons de toutes les manières qu'une demi-solution, être sans connaître ou connaître sans être, qu'est-ce que vous aimez mieux, un corps sans tête ou une tête sans corps ? Il y a de quoi hésiter, n'est-ce pas ? On ne saurait le dire. Que préférez-vous, être sans connaître ou connaître sans être ? Ce dilemme, en réalité, et d'alternative, est tellement insoluble que, métaphysiquement, il n'y a pas de raison, j'entends des raisons motivantes, de choisir l'un plutôt que l'autre. On choisit l'un ou l'autre par une option aveugle, par un pari, un peu comme dirait Pascal, par un acte militant, drastique, par un geste gordien, comme celui d'Alexandre le Grand, coupant le nœud du tranchant de son épée. On ne peut que trancher ce débat, on ne peut pas vraiment le résoudre. Donc, l'idée que dans les deux cas, nous n'aurons qu'une demi-vérité, la vérité ontique sans la connaissance de ce que nous sommes, ou bien la vérité connue sans l'intériorité ontique par laquelle nous la vivrions, la serions elle-même, fait que nous n'avons droit qu'à une moitié de solution, que les deux solutions sont insuffisantes. Eh bien, ça ressemble un peu à un dilemme. C'est comme quand on vient demander à un condamné à mort s'il préfère être pendu ou poignardé, n'est-ce pas ? S'il préfère la corde, le garrot, etc. Il pourrait dire « ça m'est bien égal ». Dans les deux cas, n'est-ce pas ? Dans les deux cas, je dois finir de vivre. Eh bien, dans les deux cas, nous n'aurons pas la vérité totale. Dans les deux cas, l'insurmontable finitude de l'homme, qui est l'obligation de choisir entre les deux demi-vérités, sera la plus forte. Comme lorsqu'on dit... Comme lorsqu'on dit que les destins conduisent celui qui se laisse conduire et traînent celui qui résiste. Du conte fata volentem, nolentem traonte. Ça veut dire que volens, nolens, il faudra marcher. Le voulant ou ne le voulant pas. Ça veut dire que dans les deux cas, qu'est-ce que vous préférez ? Évidemment, être conduit par la main, n'est-ce pas ? Mais dans les deux cas, le devenir deviendra que ça vous fasse plaisir ou que ça vous fasse pas plaisir, que on se maquille ou qu'on ne se maquille pas, qu'on aille chez l'hygiéniste et l'esthéticien ou qu'on n'y aille pas, on vieillit de la même manière. Dans les deux cas, volens, nolens. Le voulant ou ne le voulant pas. Donc, de toute façon, le devenir deviendra, c'est-à-dire aboutira à la mort. Donc, cette alternative de le vouloir ou de ne pas le vouloir, en réalité, n'est une alternative que pour rire. Le destin, ça lui est bien égal, que je veuille ou que je ne veuille pas, que je me laisse conduire ou que je résiste. Eh bien, tout semblable est le dilemme, l'alternative du savoir sans être ou de l'être sans savoir que nous étudions maintenant et dont nous disons que l'intuition voudrait le surmonter, voudrait le dépasser, et qu'elle est par conséquent un effort pour transcender l'alternative qui est la finitude de notre condition, pour la dépasser. Cette option, nous la connaissons bien, et j'en ai souvent parlé, par ailleurs, n'est-ce pas, en citant le pèlerin chérubinique, n'est-ce pas, de Angelus Silesius, « Ce que je suis, je ne le sais pas, et ce que je sais, je ne le suis pas ». C'est tout homme qui pourrait dire cela, et pas seulement du savoir, mais également de l'avoir. C'est-à-dire de tout verbe qui exprime une relation, une distance entre moi et un objet, que ce soit celle du savoir ou que ce soit celle de l'avoir, ou de la possession, dans les deux cas, un rapport est rendu possible par la distance. Ce que j'ai, je ne le suis pas. Ce que je suis... je ne l'ai pas, je ne peux pas le considérer vraiment comme ma possession. Et le jeu de bascule qui est ainsi créé entre l'être et l'avoir, comme le jeu de bascule que nous étudions par ailleurs entre l'être et le savoir, c'est en somme toute la dialectique de l'impuissance et de la nostalgie infinie de l'homme qui rend toute possession vaine et insatisfaite, et qui rend aussi meurtrier et ambivalent l'amour captatif. C'est pourquoi l'amour ne sait pas ce qu'il veut, car il voudrait posséder la chose aimée jusqu'à l'être, à être cette chose aimée elle-même, mais le jour où il sera cette chose aimée, il n'aura plus rien à aimer. Donc pour qu'il puisse l'aimer, il faut qu'elle ne soit pas lui, et pourtant quand elle n'est pas lui, elle est indépendante de lui, alors il ne sait ce qu'il faut préférer. L'être par lequel il la mangerait, l'avalerait, enfin l'engloutirait, supposer qu'il mange son aimée, n'est-ce pas, pour être, ne sachant comment la posséder, il la mange. Mais le jour où il l'a mangée, il a perdu son aimé, n'est-ce pas? Donc il oscille entre l'être, la coïncidence qui supprime la chose à aimer, et l'amour toujours impuissant parce que la chose aimée, tant qu'elle est indépendante et lointaine, est étrangère, peut en aimer un autre, infidèle, et que l'amour ainsi conçu est aussi une souffrance perpétuelle. Voilà donc de nouveau, sous une autre forme, les deux écueils qu'arrivent des Sylla, n'est-ce pas? Les deux dangers, les deux impuissances entre lesquelles nous sommes ballottés. Nous ne pouvons de même savoir qu'à condition de n'être pas ce que nous savons. C'est cela qu'il nous est maintenant, qui nous incombe d'approfondir, qui sera peut-être le mot de l'intuition. Nous ne pouvons savoir que si nous ne sommes pas ce que nous savons, c'est-à-dire si nous sommes autre chose que ce que nous savons. Si nous sommes relativement autre chose que ce que nous savons. Platon connaissait bien le problème et il l'avait résolu à la manière grecque, d'une manière optimiste, il l'avait résolu très tôt. D'abord d'une manière superficielle, dont je vous rappelle les passages du Charmide, un de ses premiers dialogues, dans lequel Platon dénonce l'impossibilité contradictoire d'une science de soi. Il s'agit d'une définition de la sagesse conçue comme épistémée et hôtesse, comme une science d'elle-même. Une idée qui est contradictoire, bizarre, étrange, pour un grec, autant dire inconcevable. Comment une science peut-elle être, avoir comme objet la science, ou être une science de soi? Non point une science même épistémée et au tout, de moi-même, mais une science de la science, épistémée et hôtesse. Et Platon précise, dans les concepts grecs, d'une manière qui est dans un langage qui est lourd d'un grand avenir platonicien, qu'une science est nécessairement tinos, c'est-à-dire une science de quelque chose, et c'est-à-dire encore alloutinos, car un ti, quelque chose, est toujours alloti, hétéronti, un quelque chose d'autre. Donc une science est nécessairement science de quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'une science de soi est un paralogisme, une absurdité, un non-sens, un vertige de l'esprit, quelque chose à quoi nous croyons penser, mais que nous pouvons dire et qui ne correspond à rien. Je vous rappelle comment, dans bien beaucoup d'années après, dans le Sophiste, Platon expliquera comment c'est le non-être relatif de l'altérité qui rend possible une pensée relationnante, une pensée qui met en relation, comme toute pensée, et que l'être pur de Parménide, dans la coïncidence pure, immobilise le discours et la science en empêchant la prédication. Eh bien, comparons maintenant ce que Platon dit sur le rapport du sujet et du prédicat dans l'attribution avec le rapport en général du sujet et de l'objet dans la connaissance. L'attribution d'un adjectif à un sujet n'est possible que parce que l'un est en partie, tout au moins en partie, le non-être de l'autre. Parce que l'un n'est pas l'autre, parce que l'un est autre que son autre, n'est-ce pas ? Que l'un est un hétéron par rapport à son hétéron. C'est cela qui rend possible la prédication. Ou bien, ce qui revient au même, mais en prenant les choses à l'envers, c'est-à-dire dans un langage positif et non plus négatif, l'attribution n'est possible non pas que parce que l'un est en partie le non-être de l'autre, mais que parce que, dans une certaine mesure, l'un, ce qui revient au même, participe de l'autre, par une interférence partitive, et que c'est ainsi que le jugement a une matière, que le jugement a quelque chose à déterminer, bah, puisqu'il faut lui faire acception de la mesure dans laquelle un être participe de l'autre. En réalité, la prédication n'est possible que par cette situation intermédiaire elle-même, intermédiaire entre la coïncidence dans l'identité, qui rendrait le discours impossible, et l'altérité absolue, qui fait qu'il n'y aurait plus de relation entre l'un et l'autre, et par conséquent que je serais incapable d'établir un rapport. Elle serait irréductible. Et de la même manière, Platon dit dans bien des textes, notamment dans le Banquet, que la recherche n'est possible Par exemple, la recherche amoureuse, la recherche érotique, Eros, qui est recherche, et qui est, comme dit Robin, synthèse, il n'est possible que parce que celui qui cherche, à la fois, a et n'a pas, possède et ne possède pas, vu que s'il ne possédait en aucune manière ce qu'il recherche, par exemple, s'il ne l'avait pas contemplé dans une vie antérieure, s'il n'en avait pas une vague réminiscence, il ne saurait même pas de quoi chercher, et d'autre part, s'il possédait d'emblée, s'il était d'emblée ce qu'il cherche, il n'aurait pas non plus à le chercher. Donc, pour avoir à le chercher, il faut qu'à la fois, il le possède et ne le possède pas, qu'il soit intermédiaire, dans un langage qui n'est pas celui de Platon, bien entendu, soit intermédiaire entre l'avoir et l'être. Remarquez que cela, d'une certaine manière, est déjà l'indication d'une espérance, d'une solution, c'est peut-être que l'être et l'avoir ne sont pas tellement impossibles, incompatibles, incompossibles, puisque c'est justement ces situations intermédiaires entre l'un et l'autre qui rend possible la recherche et la connaissance, et qui est inscrite d'ailleurs dans le mot même d'altérité, dans l'existence même de l'autre. L'autre n'est un autre, et je ne puis même prononcer ce mot de autre que parce qu'il est relativement le même. Sans ça, j'aurais, comme on dit, pas de moyen terme, pas de commune mesure, pas de moyen de les comparer. Donc l'idée même de l'autre, quand je dis que un Polonais et un Russe sont autres l'un que l'autre, ça veut dire qu'ils se ressemblent un peu, mais que l'étrangeté est plus grande que la ressemblance, n'est-ce pas ? Et il y a quand même un certain rapport, mais un rapport lointain, qui a à la fois le même et l'étrangeté, que les deux sont réunis. Eh bien, cette idée, donc, de l'intermédiarité, nous pouvons la retrouver également dans la relation cognitive, c'est-à-dire la relation qui est, en somme, la condition de toute mise en relation, et qui, d'abord, n'est possible que parce que, dans le langage que nous avons parlé, l'être n'a pas en commun l'être avec ce qu'il connaît. Le sujet n'a pas l'être en commun avec son objet. Dans la mesure où il connaît, et tout au moins dans le moment où il connaît, et dans la partie de l'être qu'il connaît, il ne le connaît que parce qu'il n'a pas l'être en commun avec lui. C'est l'exclusion de l'être du connaître qui rend possible, au moins sur ce point, la connaissance en première apparence. Tout à l'heure, en parlant du sujet du prédicat dans la prédication, nous disions que c'est l'altérité avec les ombres portées, si on peut dire, avec le paysage en relief, qui est celui que nous présente un peu le sophiste de Platon, un paysage dans lequel il y a des bosses, des creux, des reliefs, et par conséquent qui est sensible pour l'œil. Ce sont ces effets de relief qui offrent une matière variée à des rapports sans laquelle la science ne pourrait que bégayer. La science serait, comme elle bégaye, en présence de l'unité monistique, de l'unité universelle, elle mourrait d'ennui. Elle mourrait d'inanition, n'est-ce pas, en répétant toute sa vie béaba, n'est-ce pas, par exemple, en bégayant. C'est donc seul l'effet de relief produit par la négation et par l'altérité qui rend possible cette science. Eh bien, maintenant, de la même manière, c'est, comme nous allons le montrer, c'est pas une très grande découverte, il suffit simplement d'y réfléchir, c'est le non-être inhérent sous la forme de la distance et de l'éloignement entre le sujet et l'objet qui rend possible la relation de connaissance, qui lui donne une possibilité, une signification. Et même qui rend possible une connaissance même tautologique de l'unité universelle, n'est-ce pas ? Même l'unité universelle, en admettant que tous les êtres ne soient qu'un seul être, elle ne serait connaissable, dans l'hypothèse où elle est connaissable, que parce qu'au moins, par rapport à moi, elle est distante. Même si tous les êtres n'étaient qu'un seul être, et que moi je sois tout seul en dehors de l'unité, je ne puis parler de la connaissance de cette unité que parce que moi tout seul, je suis extérieur à cette unité. Il est vrai, vous me répondrez, que puisque moi tout seul qui la connais, je suis extérieur à cette unité pour la connaître, c'est que l'unité n'est pas universelle, puisque je suis en dehors. Elle comporte une grave exception, qui est l'exception du sujet connaissant, et puisque moi je suis en dehors, qui me dit que vous n'êtes pas aussi en dehors. Si bien que tout le monde, de fil en aiguille, est en dehors. Et donc, que l'unité n'est pas si universelle que ça. Et vice versa, on pourrait aussi montrer que, par exemple, si tous les êtres étaient vraiment séparés les uns des autres, c'est-à-dire remplissez les conditions pour qu'on puisse les rapporter les uns aux autres, mais que moi, bah, par exemple, je puisse coïncider séparément avec chacun d'eux. Alors à ce moment, au moins sur, à l'instant où je coïnciderai avec eux, une fusion serait possible. C'est donc que l'articulation des êtres entre eux et leur séparation n'est pas si nette, n'est pas si claire qu'il le paraît. Enfin, dans les deux cas, laissons de côté ces deux hypothèses que je ne soulève que pour être en paix avec moi-même, celui d'une unité universelle des êtres, mais connue par un sujet qui en est séparé, celle d'autre part d'être entièrement séparés les uns des autres, mais avec lesquels je coïncide séparément dans chaque cas, ce sont deux cas extrêmes et qui ne changent rien au fond du problème, qui est la nécessité de l'éloignement et de la distance pour connaître. Eh bien, je disais que cela tient à une disjonction insurmontable que d'abord nous pouvons étudier dans l'être lui-même, dans le verbe le plus indéterminé de tous, le plus général de tous les verbes, est tellement général que le fait même de le proférer, de prononcer ce verbe, implique déjà que j'y mets une certaine distance, que je le prends sous un certain jour pour en parler, et que par conséquent j'ai déjà dépassé l'être lui-même, car l'être à la limite est ineffable. Défense d'en parler, défense même de le proférer, n'est-ce pas, le plus acrobatique qu'ait fait l'homme, c'est le poème de Parménide, qui est arrivé à écrire un poème, n'est-ce pas, dans lequel, pour dire qu'en somme, l'être est et que le non-être n'est pas. Donc, à la limite, il n'y a rien à en dire, car, à la limite encore, il est indivision substantielle avec soi, il est innocence végétative de la vie de l'homme indivise, notamment viscérale et organique, et par conséquent, antérieure à tout problème, n'est-ce pas. L'être lui-même, quand on n'y ajoute rien d'autre, est évidemment antérieur à tout problème. Problématique, anti-problématique, comme on dit volontiers, comme on dirait volontiers en langage d'aujourd'hui. C'est, j'allais dire, la tautologie devenue philosophie, parce qu'en somme, le Parménide, c'est le système de la tautologie, mais tautologie est encore peu dire, parce que dans tautologie, il y a tout de même le logos, n'est-ce pas, comme l'indique tautologie, il y a tout de même le legein qui rapporte l'un à l'autre. Il faudrait plutôt dire, d'un mot que j'emprunte à Schelling, qui d'ailleurs l'applique à autre chose, l'applique à des problèmes de théologie. Oui, c'est tout à fait autre chose. C'est donc un peu un vol que je fais, un escamotage. Mais je trouve ce mot commode, la tautousie. Ce mot serait barbare si j'avais pas dit avant tautologie. Tautologie, c'est de dire deux fois la même chose, n'est-ce pas? Par exemple, de dire je suis ce que je suis, ce qui m'avance pas à grand chose. Mais quand je dis que je suis ce que je suis, je vous le dis au moins. Et même je le professe, et même je peux le dire avec un air de défi, si supposez que je sois en colère, n'est-ce pas, et que je le dise avec le rouge de la colère au front, en disant à quelqu'un je suis ce que je suis. Alors c'est plein de sens, ça a au contraire un sens très synthétique, bien que ce soit d'une tautologie. Mais la tautousie, n'est-ce pas, tauton et inai, c'est le fait simplement d'être ce que l'on est, et qui est bien entendu antérieur à toute philosophie. C'est la tautousie indistincte de laquelle rien n'émerge. Dans laquelle rien ne saille, d'où rien ne surgit, et qui est donc exclusive de toute conscience transcendante, puisque la conscience, c'est le premier surgissement, la première émergence, la première saillie à l'intérieur, sur la surface, si vous préférez, sur la surface de ce niveau de l'être en repos, de ce marasme. C'est la première ride, le premier pli. Et j'emploie volontiers le mot pli, puisqu'on associe si volontiers l'idée de la conscience ou de la self-conscience avec le dédoublement ou avec le pli de la conscience, ou mieux, le pli de l'être sur lui-même. Dès que mon être fait un pli, c'est-à-dire dès que je commence à être autrement que comme les arbres, les marronniers, les légumes, les artichauts, etc., qui sont, simplement, dès que je dis que je suis et que je prends conscience d'être, il y a un pli de l'être sur l'être. Il y a un être avec exposant. Et par conséquent, déjà, une sortie de l'immédiateté primitive. Eh bien, dans le premier stade dans lequel l'être est ce qu'il est, sans plus, sans addition, sans attribut synthétique, où il y a simplement même pas la répétition du sujet des deux côtés d'une copule fictive, car tout cela est déjà de la logique et déjà de la grammaire. C'est donc dans cette limite que nous devrions commencer. Mais cette limite est bien entendu antérieure à la philosophie, et elle se confond étrangement avec le sommeil, avec la somnolence, avec le stade de ces êtres élémentaires dont parle Platon dans le Philebe, et que je rappelle souvent, un peu trop souvent, quand je rappelle l'existence ici. Mais déjà, dans la déclaration expresse, par laquelle l'être exprime qu'il est, et même simplement qu'il est ce qu'il est, il y a déjà une conscience raffinée, une science difficile qui est incluse. Évidemment, lorsque Plotin fait dire à son dieu, c'est-à-dire à l'un, qui est le nom de Dieu, n'est-ce pas, quand il lui fait dire « je suis, je suis, je suis, et je suis ce que je suis », même pas « je suis ce que je suis », mais quand il lui fait dire « je suis », et il mit, en mettant un accent sur ce mot en critique, il est bien évident que le verbe « être », ici, a un sens qui est très plein, et très lourd. Et même dans la volontaire abstention de toute addition synthétique. Et puis aussi, quand je dis que je suis ce que je suis, je peux vouloir dire que je ne suis que ce que je suis, par exemple. Je suis que simplement ce que je suis. Excusez-moi du peu que je suis. Alors en ce sens, dans le ne que, le seulement qui est impliqué, il y a une déclaration de modestie, de finitude, la reconnaissance de mes étroites limites, de la modeste place que j'occupe dans l'univers. À plus forte raison, lorsque, comme dans les formules, on pourrait les échelonner, n'est-ce pas, la déclaration, par exemple, que l'on est, simplement, ou que l'on est ce que l'on est, la déclaration modeste, que l'on est simplement ce que l'on est, et rien d'autre, la déclaration, au contraire, orgueilleuse, un peu cynique, dans laquelle on dit, d'un air de défi, que il faut être soi-même, par exemple. Alors, le mot devient plein de sens, car le soi-même qu'il faut être devient un devoir. Quand je dis « il faut être soi-même », ou quand je dis encore « deviens ce que tu es », n'est-ce pas, je puis avoir l'air de me moquer de moi-même ou de me moquer de vous. Parbleu, je suis déjà ce que je suis, je n'ai pas besoin de le devenir. Par définition même, chacun est ce qu'il est. Si je dis qu'il faut devenir ce que l'on est, c'est probablement parce que je pense que je suis un être de temps, et que je ne suis jamais à aucun moment tout ce que je puis être, que je ne suis pas maintenant tout ce que je peux être, que ce que vous voyez de moi et ce que je vois de vous en ce moment n'est pas tout votre être, ni tout le mien. Parce que, en même temps, nous dirons que je continuerai à exister en sortant de cette salle, et vous aussi, et à faire d'autres choses, et à voir d'autres gens. Eh bien, tout cela implique qu'aucun être n'est donné entièrement dans l'instant où il se déclare lui-même, et par conséquent, que tout l'être de l'homme ne figure pas dans cet instant. Donc, le truisme vulgaire, le simple truisme que pourrait être l'obligation, le commandement d'être ce que l'on est, devient ici un devoir étrangement difficile, un idéal à réaliser, une chose qui littéralement est à faire et pour laquelle il ne suffit pas simplement de continuer à être. Pour être, disions-nous, il n'y a qu'à être, et cela est bien plus facile encore que vivre, respirer, de dormir, et que sais-je encore, attendre. Quels que soient les mots que je choisis, ils sont tous plus déterminés que être, n'est-ce pas, vivre. Vivre, c'est peut-être très difficile, parce que la vie est parfois étroite, parce que pour vivre, il faut de l'argent, il faut être chauffé en hiver, il faut avoir de quoi manger, enfin c'est une chose compliquée. C'est donc un travail très net que de vivre, et les miséreux qui grelottent en savent quelque chose. Vivre est difficile. Attendre est une manière de vivre qui est difficile, bien qu'il ne s'agisse que de durer la durée, parce qu'il faut durer un temps privilégié, le temps où on va d'attendre la récompense. Par exemple, le temps d'attendre la libération, le temps d'attendre la guérison. Et respirer devient difficile pour ceux qui sont malades, etc. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui soit absolument facile, tellement facile qu'il n'y a rien de plus facile, que l'idée même de la difficulté en est absente, n'est-ce pas, même virtuelle, comme du vivre, du respirer, et du dormir, qui est difficile chez les insomniaques, n'est-ce pas, quelquefois c'est difficile de dormir quand il y a du bruit, n'est-ce pas, mais pour être, il n'y a aucune recette. Pour être, il n'y a qu'à être. Et naturellement, c'est bien plus facile que bonsoir et bonjour. Et même ceux qui disent ou qui font des livres sur la difficulté d'être, probablement parce qu'ils ne la connaissent pas ou ne l'ont jamais connue, font des livres métaphoriques. C'est pas l'être qui est difficile, mais ce sont les manières d'être. Ce sont les modes de l'être. Mais jamais l'être, le tout court, c'est-à-dire laisser, peinaille, je sais pas, je vous envoie au hasard à la figure, le mot grec, le mot latin, dans l'espoir que ça paraîtra plus clair, de dire essai, einaille ou être, la chose indéterminée et générale, indépendante même des manières et des modalités. Eh bien, c'est cela qui est relatif au temps. C'est cette dernière chose indéterminée qui est, peut devenir paradoxalement, non pas difficile au sens de la difficulté empirique, mais difficile d'une manière différente de la difficulté habituelle, difficile métaphysiquement par l'obligation de le devenir. Et par exemple, cette difficulté devient concrète quand il s'agit de devenir soi-même malgré l'opinion publique, malgré la société menaçante, malgré le qu'en dira-t-on, malgré l'estime de Pierre et de Paul qu'on risque de perdre quand on veut être soi-même. Alors, la difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent quand il faut se brouiller avec sa famille, se brouiller avec tous ses amis, perdre sa place dans la société, risquer d'être mal vu dans les salons, n'est-ce pas, etc. Là, la marge entre l'idéal et le réel devient très, très grande. À plus forte raison, alors là le problème devient presque facile pour nous, lorsqu'il s'agit d'être ou de quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, quand on nous commande de devenir quelque chose d'autre, quand nous voulons ressembler à quelqu'un, qui est un quelqu'un et donc un autre, que nous admirons, ou encore être quelque chose d'autre, le devenir, car l'être est toujours ce qu'il est, mais le devenir à tel point de vue, en tant que ceci ou en tant que cela, au sens partitif du verbe être, tout en restant soi-même, devenir relativement un autre, cela devient problématique. Eh bien, tout cela nous montre que dans l'être pur, pris à l'état pur, sans rien d'autre, sans aucune addition, aucun problème n'est encore présent, et par conséquent, aucun moyen de connaître quoi que ce soit. La plus légère, la plus humble conscience d'être implique déjà une espèce de distance, un commencement de distance entre soi et soi. Et par conséquent, un éloignement, un vide, un commencement de non-être qui me permet de connaître. Tant il est vrai que être est vraiment, l'être pur et simple est vraiment en deçà de tout vocable et même véritablement indicible. Même le mot immédiat ne lui convient pas. Tous les mots dont on peut se servir sont encore des mots pour la conscience, car le mot immédiat que nous avons glosé dans les premières séances est la négation de la médiation, n'est-ce pas ? Le mot immédiat implique que je me donne d'abord la médiation et qu'ensuite je la biffe, je la raye, parce que ce que je comprends bien, c'est la médiation. Pour comprendre donc que l'être est immédiat, je me donne d'abord la vue de cet être, et ensuite j'en supprime toutes les médiations. Donc le mot immédiat est encore trop problématique pour l'être, puisqu'il implique la médiation possible. Le mot adhésion ou adhérence, dont nous nous étions servis également, sous-entend la possibilité du détachement. Celui qui adhère peut cesser d'adhérer, comme quelqu'un qui... comme un renégat, n'est-ce pas, qui se sépare d'une religion ou d'une doctrine politique à laquelle il adhérait. Qui adhère peut cesser d'adhérer. On est tenté parfois de dire, car le mot même de conscience le suggère, l'existence avec soi, n'est-ce pas ? L'être est quelque chose comme l'existence avec soi. Mais il est bien évident que, comme on dit, conscius c'est comme... Conscius sibi, conscius c'est comme l'existence avec soi, ensemble avec soi. Mais bien évidemment, la préposition avec elle-même implique la séparation possible. Elle implique la distinction d'être, au moins la distinction des personnes, numéro. Pour cohabiter, pour coexister, il faut être au moins deux, n'est-ce pas, suneinai, pour cohabiter, il faut être au moins deux et pouvoir se séparer. Vous le savez, je l'ai souvent rappelé, d'ailleurs c'est une phrase, une pensée qui revient très souvent chez Platon, dans le Théétète, dans le Sophiste, dans le Philèbe, Platon compare la pensée dianoétique, la dianoïa, et dans le Théétète, l'opinion, il la compare à un dialogue non pas avec quelqu'un d'autre, mais à un dialogue avec soi. le dianoïstai, c'est-à-dire la pensée discursive, dans, dit-il, dans le tête-à-tête, 189 et 190 A, et comme une, c'est comme une âme, ôté et hautaine et rotosa, caïapocrinoméné, qui s'interroge elle-même et qui se répond à elle-même. Caï fasse coussa, caï ou fasse coussa, qui dit oui et non, qui affirme et qui nie. Et encore, il dit, logos ou, logon, ote, prosoten, epsuka, epsuka, diexerketai, l'âme parcourt un discours par rapport à elle-même. Et enfin, logos et iremenos, un discours tenu, prononcé, non pas prosallon, non pas, pas, pas envers un autre, comme tout discours, ou des faunets, ni à haute voix, mais siguet, en silence, kai pros auton, et à soi-même. Car un grec, naturellement discoureur, ne comprend bien que ce qui est discours, un discours prononcé. Si bien qu'en réalité, le discours qu'on prononce aux autres et le discours qu'on se prononce à soi-même sont, en somme, deux modes du discours, et ne diffèrent entre eux qu'en degré. Dans les deux, il y a pros. Pros et auten, pros allon. Pros, qui est en grec la préposition de la relation qui implique le vide. Donc, même dans cette pensée, qui est le discours qu'on se prononce à soi-même, le vide, l'éloignement, est déjà donné. Seulement, le Philèbe, qui est plus pittoresque, qui développe ses textes, celui du Philèbe est en 38D, et, au cas où par hasard, par un heureux hasard, vous auriez l'idée de vous y reporter. Comme ça, je ne me reprocherai pas de ne pas l'avoir fait. Sophiste, 263 et, où il dit, c'est un discours à l'intérieur de l'âme, entos tes pluques, anephones guinomenos, se produisant sans émission d'un son, sans une voix. Et, disais-je, le Philèbe, plus, de manière plus pittoresque, parle de la présence possible de quelqu'un. Tant qu'il y a ce quelqu'un à mon côté, une présence, parone, un homme présent, eh bien, il y a un discours avec, accompagné de phonè, accompagné de, d'une voix qui s'adresse à lui. Sinon, l'homme devenu l'homme seul se répond ou se parle à lui-même et suppose par conséquent une société intérieure. C'est assez curieux de voir un grec à une conscience discoureuse, une conscience établie pour la relation avec l'autre, pour laquelle il n'y a de science que d'un autre, il n'y a de discours qu'à un autre, de penser que par rapport à un autre, de le voir aux prises avec le problème du dialogue intérieur, de cette pensée qui est une activité, une animation intérieure dont on ne peut pas dissocier les termes, et qu'on se représente en somme comme des conjoints mal soudés, comme un ménage de gens mal mariés qui sont ensemble en attendant de n'être plus ensemble et qui dans lesquels la soudure est superficielle. On voit encore la ligne de séparation qui les unit d'une manière si fausse. Et, ils sont ensemble et peuvent se séparer. Tout cela pour dire que l'existence avec soi, qu'implique déjà la pensée, la conscience, la première conscience de l'être, est en réalité une existence dans laquelle est donnée l'aération par la distance, c'est-à-dire le dédoublement libérateur. Dans tous les cas, vous le voyez, la première connaissance, c'est-à-dire la première conscience ici, implique une humble distance entre l'un et l'autre en moi-même, mais en ces matières, la distance n'a pas besoin d'être grande. Ce n'est pas une question de kilomètres, ni d'années-lumière, qui est seulement le moindre entrebâillement, la moindre fissure dans laquelle le non-être s'installe entre moi et moi-même, la moindre aliénation entre moi et moi-même, et déjà, la connaissance est donnée, et j'ai quitté l'innocence indivise, virginale de l'être primitif. Je ne suis plus un être qui est, purement et simplement. Je me suis dépris, décollé de moi-même. Nous dirons plus simplement que cette condition qui rend l'être et le connaître exclusifs l'un de l'autre, c'est le distancement. C'est un mot que l'on peut forger, n'est-ce pas, sur la distance, le distancement qui est la condition même de toute lucidité et par conséquent de toute, de toute sécurité, comme nous le montrerons dans le temps, le recul, Le recul dans le temps est aussi la condition de la clairvoyance dans le temps, comme la distance dans l'espace. Nous verrons la symétrie qu'il y a à cet égard, symétrie en grande partie fausse, d'ailleurs, je vous en avertis, entre le recul temporel et le distancement spatial, par lequel l'homme se déprend de l'immédiat. Donc, cet homme-là est l'homme qui prend sa distance, comme on dit, si bien, qui prend sa distance, c'est-à-dire qui se donne de l'air... Qui se donne de l'air, qui repousse l'extériorité le plus loin possible de la surface de son corps. Ce sont des métaphores pour faire comprendre, car il s'agit de la connaissance. Il ne s'agit pas seulement de repousser l'objet, car on peut ne pas connaître et repousser les objets loin de soi. Et on peut vice-versa connaître et laisser les objets à fleur de peau, les laisser où ils sont. Donc, par métaphore, nous dirons que cet être qui se déprend est celui qui repousse l'extériorité à connaître le plus loin possible de soi, de ses sensoria, par exemple, ou lorsqu'il s'agit de réflexion, le plus loin possible de l'ipséité connaissante, de lui-même comme ipséité. Par conséquent, qui déblaye, si on peut dire, autour de lui une zone vacante, qui déblaye une zone vacante de liberté autour de son existence, qui ne se contente pas d'être, mais déblaye une zone vide, qui est la zone, précisément, la zone de la liberté. Eh bien, il y a un moment dans lequel, qui semble intermédiaire entre l'un et l'autre, notamment dans la conscience avec soi, par exemple, dans lequel l'être va et vient d'une situation à l'autre, oscille entre l'une et l'autre, joue des deux, joue de leur équivoque, c'est-à-dire joue d'être tour à tour, joue alternativement du plaisir innocent d'être, et de la satisfaction peu innocente de le savoir. L'être oscille, vibre, si on peut dire, entre le plaisir d'être, d'ailleurs le plaisir d'être n'est un plaisir que parce que déjà je ne suis plus entièrement, je ne suis plus simplement celui qui est, et la satisfaction qui, elle, n'est pas innocente de l'être, de le savoir. C'est-à-dire, n'est jamais sans se savoir être, et ne sait jamais sans être, d'une certaine manière, ce qu'il sait, sans l'être un peu. Et par conséquent, savoure l'ambiguïté ambivalente de cette position oscillante, et joue avec elle. Demander à l'esprit de renoncer à cette distance libératrice, distance, distancement, sont des mots qu'emploie souvent le philosophe Simmel, Distanzierung, il dit, d'un terme qu'il a inventé et que nous pouvons nous approprier. C'est à lui que je l'emprunte et j'aurais dû probablement commencer par le dire. C'est donc cette distance qui est à la fois libératrice et protectrice, puisque j'ai dit qu'elle déblayait autour de moi une latitude. Elle déblayait la latitude. Eh bien, nous demander d'y renoncer, c'est nous demander de renoncer à notre civilisation et à la supériorité qu'elle nous confère, à cette civilisation intérieure par laquelle l'homme qui connaît se met au large. Se met au large, agrandit la sphère de son existence personnelle et cesse enfin d'être un point, cesse d'être un ego ponctuel. Un moi ponctuel qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez d'égoïste, qui ne voit pas plus loin que ce nez. La cérébration lui sert à cela. Le cerveau nous est donné pour prendre nos distances, dans le temps nous le verrons, dans l'espace nous voyons déjà, pour aménager cette zone de liberté autour de nous. Eh bien, de la même manière que dans le temps, et il nous faut bien anticiper un peu pour mieux éclairer l'un par l'autre, ce que je dirai plus tard. Dans le temps, l'être temporel temporise. Ce ne sont pas simplement des jeux de mots, n'est-ce pas, que temporel et temporisation, n'est-ce pas, la temporalité et la temporisation. L'être temporel temporise, c'est-à-dire fait du temps. Sécrète du temps, si on peut dire, comme l'araignée sécrète les fils de sa toile. Ou le verre à soie, les fils de soie. L'homme secrète du temps par devant et par derrière pour se mettre au large, comme le poumon marin dont parle Platon et dont je reparle encore aujourd'hui, qui n'est pas capable de secréter ce temps. L'homme, donc, pour dépasser le stade misérable de l'esprit momentané, de ce que Leibniz appelle mens momentanea. Mais peut-on même dire que une méduse soit mens momentanea? Elle n'est même pas mince, elle n'est même pas un esprit, ni momentané, ni pas momentané. Elle n'est pas un esprit du tout. Quand je dis mens momentanea, je me représente encore d'une manière très construite, très abstraite, un homme tel qu'il est, c'est-à-dire un être mental, un être capable de regarder l'avenir par devant longtemps à l'avance, de revenir, de ruminer sur le passé longtemps après, et dans lequel le passé et le présent et le futur s'amenuiseraient peu à peu, se restreindraient aux dimensions du présent jusqu'à devenir un inc sans épaisseur. C'est donc, en somme, un super-homme, un surhomme que celui qui serait mince momentanéa. Quand Platon nous parle de ces coquillages sur la plage, il ne s'agit pas même d'une mens momentanea. Et il s'agit du stade de la monère, le stade du poumon marin, qui est antérieur à toute civilisation. Donc, l'être civilisé prend ses sûretés, s'assure lui-même, prend ses sûretés par la distance pour assurer sa supériorité. Remarquez que là encore, et c'est pourquoi il était pratiquement impossible d'éviter l'anticipation, le temps et l'espace sont liés l'un à l'autre, sont donnés ensemble, car celui qui a élargi son espace vital, qui a élargi sa latitude protectrice autour de lui, a ipso facto le temps de prévoir, de voir venir, de laisser venir l'ennemi, comme un état prudent. Un état prudent et menacé qui a multiplié autour de lui une ceinture de glacis, d'état tampons, de marches protectrices pour amortir le choc de l'agression, pour retarder l'invasion. Et de la même manière, l'homme qui, par le recul et par le distancement, élargit cette zone protectrice, a en même temps le temps de voir venir l'ennemi, si tant est que ses rapports avec l'autre sont une guerre. Et enfin, il a le temps de contempler la vérité, si c'est de connaissance et non pas simplement de danger qu'il est question.